Du 19 au 29 janvier, c'était la quatrième édition du Willoft Music Festival, un festival musical urbain et itinérant créé en janvier 2019 par la Cave aux Poètes. C'est un événement qui se déroule sur 10 jours et qui prend place dans un grand nombre de lieux culturels et patrimoniaux de la ville de Roubaix, et même des lofts de particuliers. Le 24 janvier, à l'occasion d'une journée au musée de la piscine, nous avons interviewé Manon, chargée de programmation à la Cave aux Poètes et pour le festival. Est-ce que tu peux nous parler de la naissance du festival et des volontés d'anti-festival comme vous le présentez vous-même à la Cave aux Poètes ?
Alors, je n'étais pas là pour la naissance du festival, mais je peux quand même en parler. C'est un festival qui a été créé en 2019 avec le constat du mois de janvier qui est une période un peu triste, un peu grise, surtout dans le Nord, mais aussi une période où il y a assez peu d'événements culturels. Et c'est également une période où il y a peu de festivals. Et le deuxième constat, c'était une espèce de course folle aux événements de plus en plus gros, de plus en plus énormes, qui accueillent plus de public, avec des grosses têtes d'affiches. Et l'idée, c'était de prendre un peu le contre-pied et de se placer dans une période plus calme et de prendre le temps d'aller dans des lieux insolites et dans des petites jauges pour faire découvrir des artistes dans des conditions différentes, de manière plus chaleureuse. Et l'idée, c'était aussi de faire un lien avec le territoire sur lequel on travaille toute l'année, qui est Roubaix, qui est une ville très riche en histoire et qui dispose de beaucoup de lieux de patrimoine, et du coup, dans le même temps, de mettre en valeur ces lieux-là.
Et quels sont les différents lieux des concerts cette année ?
Alors, il y en a beaucoup. Il y avait le premier jour, l'ouverture, c'était dans une micro-brasserie, la brasserie Hub. Il y a évidemment, comme le nom du festival l'indique, des lofts où chez les habitants. Donc là, il y avait le loft de Charlotte et Sébastien. Il y avait la maison de Jean-Christophe. Et on a la maison bleue, qui est une maison d'hôtes dans un ancien hôtel particulier. On avait ensuite la Cave aux Poètes, qui reste un lieu du festival où on organise quelques concerts. Le NPJJ, l'École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui est dans une ancienne friche textile. Les Trois Tricoteurs, qui a un bar avec des machines à tricoter. Les Ateliers Jourés, qui ont également une ancienne friche industrielle reconvertie en atelier d'artistes. La Villa Cavrois, le Musée de la Piscine aujourd'hui. Les Archives nationales du monde du travail, également une ancienne friche industrielle. Le temple protestant, qui est un ancien temple du 19e siècle en bois et en briques. J'y suis presque. Le gymnase, qui est un nouveau lieu du festival aussi, qui est un ancien gymnase et maintenant un lieu dédié à la danse. Et enfin, le conservatoire de Roubaix.
Et donc le choix des lieux patrimoniaux et des lofts que les propriétaires viennent d'ailleurs eux-mêmes proposer pour l'accueil des concerts, il est assez spontané parce que c'est le patrimoine de Roubaix. Et pour les artistes, comment toi, à la programmation, tu détermines qui va venir et dans quelle salle ?
Alors il y a plusieurs choses. Généralement, nous, dans la programmation, on se concentre sur l'univers de l'artiste et on essaye déjà, nous, dans un premier temps, d'imaginer où est-ce qu'on l'imaginerait, où est-ce que ça pourrait fonctionner. On essaye aussi de créer des liens quand c'est possible. Alors des fois, c'est des petits liens, mais qui peuvent faire sens. Bah, là, aujourd'hui, c'était un gros lien. Du coup, Flesh Love, qui travaille beaucoup sur les questions de guérison, de chamanisme, de rituel. Le fait de venir au musée de la piscine où il y a un vitrail hommage à Mamadou, qui est un guérisseur de Roubaix. Là, le sens était tout trouvé. Après, ça peut être lié à l'esthétique musicale. Par exemple, le fait de faire de la folk, des solos, guitare-voix, folk, dans un café avec des plaids et des chocolats chauds, c'est parce qu'on visualise bien l'univers dans des lieux comme ça. Ou alors, un autre exemple, les Hey Babies des Canadiennes, un peu délurés, avec un style vestimentaire très coloré, très extravagant, qu'on voyait bien aux Ateliers Jourés, qui est un lieu dédié, avec des ateliers d'artistes plasticiens, plasticiennes, sculpteurs, sculptrices, plein de couleurs, qui fonctionnaient bien avec ce lieu-là. Et donc l'idée, c'est nous toujours de présenter les lieux aux artistes et de leur demander si c'est des lieux qui leur parlent, éventuellement de leur proposer différents lieux, on fait un peu comme ça.
Et cette année, l'artiste fil rouge qui a donc carte blanche pour organiser un parcours, c'est Flesh Love. La première journée programmée, c'était à la piscine de Roubaix, un musée qu'on a pu visiter une demi-heure avant la séance de méditation. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour la programmation fil rouge par rapport au festival ?
Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement, c'est présent depuis la première édition. Dans le choix qu'on fait, nous, c'est des propositions qu'on fait à des artistes, déjà des artistes coup de cœur, dont on apprécie la musique, la qualité artistique, mais également, je dirais au-delà de ça, un univers global. C'est-à-dire que généralement, c'est des artistes qui ont un intérêt, une curiosité pour d'autres disciplines artistiques ou pour des choses complètement en dehors parfois d'une discipline artistique, mais voilà, qui ont un univers qui nous parle et à qui on a envie d'offrir la possibilité de prendre plus de temps dans le festival pour présenter justement cet univers de manière très libre au public du festival.
C'était Manon, chargée de programmation de la Cave aux Poètes et du festival Wheel of Music. Nous avons aussi rencontré Flesh Love, artiste fil rouge du festival lors de cette 4e édition, à l'occasion de la première des 3 journées de son parcours au musée de la piscine de Roubaix. C'était une visite axée autour du vitrail hommage au guérisseur roubaisien Mamadou, suivie d'une heure de méditation.
Du 24 au 26 janvier, tu avais carte blanche pour organiser un parcours qui se termine par un concert donc aux Archives nationales du monde du travail. Et donc, toi, tu as axé ce parcours autour du thème de la guérison. Est-ce que tu peux nous en parler ?
De la guérison, t'as combien de temps ? Parce que je peux t'en parler longtemps. Mais je peux t'expliquer pourquoi peut-être j'ai axé ce parcours autour de la guérison. En fait, moi, c'est vraiment le fil rouge de ma vie. Et je pense que c'est le fil rouge de la vie de beaucoup de gens. Et je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour guérir et panser les plaies. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de lier ce concert, qui est quand même un peu un rituel et qui parle de guérison, avec des moments où je mettrai en avant d'autres personnes que moi. Parce que moi, c'est un petit peu la problématique que je rencontre dans le milieu artistique, c'est que je trouve que c'est beaucoup autour de soi. En même temps, on propose nos chansons, nos œuvres et tout. Et donc, j'avais envie de mettre en avant d'autres gens, d'autres guérisseurs à leur façon. Donc, il y a Malika, qui est la chef du restaurant Myéline, qui est aussi algérienne comme moi. Et j'avais envie, du coup, parce que pour moi, la nourriture, ça guérit beaucoup. Et il y a toute une pharmacopée au Maghreb qui est intéressante et qui est peu connue. On utilise beaucoup de plantes pour se guérir, le nigel, on utilise l'argan, on utilise le cumin. Et donc j'avais envie de pouvoir aller à la rencontre de cette femme-là et de sa passion, tout en amenant justement notre point commun qui est le Maghreb, et donc la guérison à travers la nourriture et l'amour aussi, parce que la nourriture c'est aussi de l'amour. Et puis pour Mamadou, en fait, c'est en discutant avec Manon, avec toute l'équipe du festival, je leur avais dit que j'avais pas vraiment envie de faire quelque chose autour de moi, mais autour de quelqu'un d'autre, et autour de quelqu'un qui aurait potentiellement guéri des gens ou qui aurait fait quelque chose d'assez incroyable. Et on m'a parlé de Mamadou, j'ai trouvé ça assez magique. Moi personnellement, je le connaissais pas. Je sais que dans la région il est un peu connu, mais en tout cas moi qui suis suisso-algérienne, je le connaissais pas du tout. Et on m'a dit qu'il y avait un vitrail au musée de la piscine. J'ai vu ce musée qui est incroyable, et je me suis dit non, il faut qu'on fasse quelque chose autour de cet homme assez magique quand même, qui a les mains du miracle. Et ensuite, après, qu'on lit ça avec un ancrage plus dans l'instant présent, avec une méditation où on se connecte à notre propre pouvoir de guérison. Puisque Mamadou n'est pas là pour pouvoir nous manipuler aujourd'hui, ce qui aurait été incroyable. Mais peut-être qu'il était là pendant la séance de méditation.
Tu as parlé de la piscine, de Malika et de Mamadou. Et quels sont les autres lieux ou les autres personnes qu'on pourra découvrir lors de ce parcours ?
Déjà, j'ai oublié de dire oui, c'est Céline qui a fait la méditation. Il y a aussi Alice, la conservatrice du musée, qui, elle, nous a fait la visite. Et ensuite, pendant le concert, moi, je serai entourée de Jafar Ajouri, qui sera à la clarinette et à la guitare, et de Olivier Kunduno, qui sera au violoncelle, et d'Edouard, qui est l'ingé son, qui me suit. Et il y aura d'autres techniciens, malheureusement, je ne connais pas leur nom, mais du coup, de l'équipe de ce festival, qui seront là, que je remercierai pendant le concert. Et d'ici là, j'aurai appris leur nom.
Et pour parler de ta musique, donc ton concert se passe aux Archives nationales du monde du travail, avec une visite qui est aussi proposée avant. Et pourquoi ce lieu ? Est-ce que tu as eu déjà l'occasion de l'investir un petit peu ?
Pas du tout. Non, alors là, pour le coup, j'ai fait confiance à Manon. Elle connaît son territoire, ce lieu. Moi, j'ai deux formules. J'ai une formule qui est acoustique, c'est celle qu'on va découvrir jeudi, et j'ai une formule complètement électrique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, je joue pas du tout dans les mêmes lieux, les mêmes festivals. Et en acoustique, on me fait souvent jouer dans des lieux un peu étranges comme ça. Je sais qu'à Paris, j'ai joué au musée de l'architecture aussi, sous une espèce de fresque. Il y avait François Ier qui me regardait du coin de l'œil. Genre, c'était assez chouette. On a joué dans des temples. On a joué dans des lieux comme ça. Et donc, en fait, je crois qu'on va bientôt aussi jouer dans une abbaye. On va jouer dans une prison, genre. Ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait, avec ce format acoustique, on va à la rencontre de lieux. En fait, pour nous aussi, c'est hyper agréable de jouer dans un lieu qui est chargé d'histoire et énergétiquement, qui est... Des fois, les salles de concert peuvent être un peu froides, tu vois. Donc non, en fait, je me réjouis de découvrir. Et ce que j'aime bien faire, moi, pendant mes concerts, c'est que je vais adapter la scénographie et mon entrée sur scène et mes déplacements en fonction de l'espace Donc une fois, on a joué quand même dans un endroit où il y avait un escalator, donc j'ai utilisé cet escalator. Et donc je vais, le jour où j'arriverai sur le lieu de mon concert, je verrai comment je vais adapter. C'est quelque chose d'un peu vivant et d'organique que je trouve assez marrant. Genre j'ai joué à Lausanne dans la grande église, et donc j'ai commencé le concert caché sous la nef, et puis après je suis apparue. Genre voilà, j'essaye d'adapter ça. Voilà, il y a des effets spéciaux en fait pendant les concerts.
Et donc toi, tu fais de la musique assez éclectique entre électro, hip-hop, jazz et soul. Tu chantes en plusieurs langues aussi. Et quand on regarde tes clips, donc on remarque un univers bien particulier, très travaillé sur la composition de l'image, les couleurs dominantes, les chorégraphies. Et donc est-ce que ton choix de parcours ou ta validation du parcours et des lieux, ça traduit aussi une construction de cette esthétique-là et de ton univers que tu partages à travers ton art et à travers la guérison, les thèmes que tu abordes?
Bah, tu sais, je pense qu'on attire ce qu'on dégage. Donc je pense que les festivals, mais c'est pour ça que ce serait intéressant de demander, mais les gens qui ont envie d'inviter Flesh Love et d'inviter du coup Flesh Love dans ce genre aussi de cadre se rendent bien compte qu'en fait ils sont touchés par cet univers et se rendent compte que c'est un univers qui peut être transposable à des endroits un petit peu considérés comme un peu hors cadre. Et donc ouais, pour moi c'est hyper important d'avoir une musique qui soit la plus ouverte possible pour ne pas me bloquer. C'est-à-dire que par exemple sur le prochain album, il y a des nouvelles langues qui arrivent, il y a des nouveaux styles musicaux qui arrivent, et cette liberté c'est moi qui me l'offre, et je pense que du coup les gens qui ont envie de nous inviter sont touchés par cette liberté là aussi, mais il faudrait leur demander à eux. Là c'est une projection, c'est ma projection, mais j'imagine.
Si tu sors un album, est-ce que tu veux dire quelques mots dessus?
Tout ce que je sais, c'est qu'il sortira normalement à l'automne. Et voilà, je suis en train de travailler sur un nouveau spectacle avec cette idée de repousser les limites de ce qu'est l'expérience scénique. Je suis en train d'écrire un livre qui sortira en même temps. Je suis en train de faire tous les clips. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, je n'y suis pas du tout, mais ça va arriver.
C'était Flesh Love, une des artistes au programme du Wheel of Music Festival qui avait lieu à Roubaix du 19 au 29 janvier.
Est-ce qu'on pourrait avoir un petit bilan du festival en termes de retour du public et des artistes?
On a eu des retours très très positifs du festival, à la fois du public qui était ravi de la proposition un petit peu originale et des lieux un peu insolites dans lesquels ils ont pu voir des artistes qu'ils connaissaient ou alors qui venaient pour découvrir. Et de la même manière, les artistes sont très enthousiastes à l'idée de ce festival-là, et ça se concrétise vraiment sur place dans le rapport qu'ils arrivent à créer avec le public. On a eu des très bons retours des lieux qui nous ont accueillis aussi, qui sont toujours ravis d'avoir une proposition un peu différente dans leurs murs. On a eu 1630 spectateurs sur les 11 jours de festival, donc on est vraiment très contents, ça a très bien fonctionné, avec certaines personnes qui sont venues faire plusieurs événements, qui ont vraiment pris le concept du festival comme un parcours de découverte. Donc on est vraiment ravis. On a, on a eu 16 artistes ou groupes accueillis, surtout de la scène nationale émergente. Donc c'est aussi dans l'objectif de découverte du festival. Et on est aussi contents sur la programmation, puisqu'on a... On avait un objectif de plus de parité sur scène, et on avait 58% de musiciens et 42% de musiciennes. Donc on est aussi assez content là-dessus de la représentation des femmes sur scène dans le cadre du festival.
S'il y a une édition suivante, est-ce que vous avez prévu des choses de la même manière, des lieux?
Bon, on restera sur le même concept de festival bien sûr, mais l'année prochaine ce sera la 5e édition. Donc on va essayer de marquer un peu le coup pour fêter cet anniversaire de la 5e édition de Wheel of Music.
Un reportage de Claire Fernandez pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.